Pour tout ce que j'ai entendu ce matin, je suis vraiment excité. Il y a un feu qui est là, il y a une excitation qui est là parce que ce matin, on a vécu plusieurs domaines de ce que Dieu veut de nous. On a vécu un autre domaine hier dans un mariage. Et tout ce qu'on a vécu là, c'est ce que Dieu veut. On a connu un mariage donc avec un couple qui s'unit devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui à trois dans leur couple, l'homme, la femme et Dieu. Ils s'unissent pour pouvoir avoir une nouvelle marche ensemble, avec et pour Dieu. Ce matin, on a vécu une louange très forte. Dieu veut qu'on lui apporte sa louange. Dieu veut qu'on lui apporte une louange. Et quand il est là et qu'il touche les cœurs, eh bien ça bouge. On a des cœurs qui sont transformés, on a des cœurs qui sont là, il y a une flamme, il y a un feu qui est puissant. Ensuite, on a des témoignages. Tout ce qu'on vient d'entendre ici dans le témoignage, c'est là aussi, là où Dieu veut bouger. C'est dans notre témoignage, c'est dans notre vie. Ce qu'on a entendu aussi, c'est Pascal. Quand on a vu ce feu qu'il a pour aller toucher les âmes dehors, c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'on a goûté à la louange, on a goûté au témoignage, on a goûté au fait que les chrétiens vont sortir de l'église. Et ça vous, je sais pas, ça vous bouge pas ça, ça vous donne pas une vie, non, une soif. Mais moi je l'ai ça. Je vois que là, ce week-end, on a vécu plein de choses. Et je pense que Dieu a bougé dans chacun des domaines. Cette semaine, juste pour le témoignage, lorsque j'ai su, lorsque je savais, que je devais prêcher, ma prière, elle est toujours de dire « Seigneur, donne-moi mon thème. Seigneur, je me mets devant lui, je me place devant Dieu et je dis « Seigneur, donne-moi le thème. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je partage ? Sur quel domaine tu veux que je partage ?» Et ça a été silence radio. Silence radio. J'avais pas de thème. Le thème ne venait pas. Et je disais « Mince !» Et je voyais les jours qui passaient, je voyais le temps qui passait. Et encore hier au mariage, j'en ai vu certains, je leur ai dit « Je suis pas prêt pour demain. Je suis pas prêt. » Et puis, j'ai travaillé dans la soirée tard, dans la nuit, et les choses se précisaient, j'avais des idées qui étaient là, mais toujours pas de thème. Mes idées étaient là, je savais les mettre sur un papier, mais pas le thème, pas la petite flamme qui est là pour pouvoir dire, voilà Seigneur, moi je veux pouvoir parler à ton peuple parce que c'est toi qui vas parler au travers de moi. Et la nuit s'est passée et pendant la nuit, ça a cogité. Je me suis levé ce matin et j'ai tout mis. Mon plan est arrivé. Dieu m'a donné son thème. Et le thème, vous savez ce qu'il est ? C'est l'incertitude. L'incertitude. Et c'est un thème qui est récurrent. Parce que l'incertitude, elle est vraiment dans le domaine où on est avec Dieu et des fois on est sans Dieu. Ou des fois on est avec Dieu et Dieu veut être vraiment avec nous, mais on veut prendre la place de Dieu. Et les incertitudes, elles sont là. C'est de se dire, bah, Seigneur, moi, je ne sais pas où je vais. Et le Seigneur te dit, mais je suis là, moi. Je suis là, moi. Et on vient de l'entendre dans ce témoignage. C'est pour ça que là, quelque part, mon prêche, j'aurais juste à venir ici sur l'estrade, prendre le micro et dire, Amen. Mon prêche, il est fait. Tout ce qu'on a entendu ce matin, vous l'avez vu, vécu, hier, aujourd'hui, les incertitudes. Sandy en a parlé hier, dans le partage qu'elle a amené pendant ce mariage. Les incertitudes d'un couple. Oula, on pourrait parler longtemps de ça, un mariage. Un homme et une femme qui s'unissent et qui se disent, voilà, on part. Alors, on ne se connaît pas non plus à 100%. Hein. C'est vrai que quand on se marie, on n'a pas eu l'occasion de se connaître vraiment, à part pour certains, mais on va apprendre à se connaître. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est quoi le mariage ? Est-ce que c'est le fait de se passer un anneau au doigt ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire des projets ensemble ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le fait aussi de pouvoir vivre des épreuves, vivre des périodes difficiles ? Oui, c'est ça le mariage. Il y a des incertitudes, mais à chaque fois, on a un grand Dieu qui nous dit « je suis là, tes incertitudes, vas-y, vis-les, mais je suis là. Si tu te penches vers moi, ton incertitude, je vais la prendre en main. » Ce poème, je le connaissais, cette personne qui marche sur une plage, et puis il y a des moments où il y a deux traces de pas, et puis il y a des moments où il y a une trace de pas. Et Jésus a dit, voilà, t'as vu les périodes où tu étais vraiment dans l'incertitude, ben là, je t'ai porté. Vivre avec Dieu, c'est pas simplement une vie qu'on vient rajouter à la vie qu'on a vécue auparavant. C'est une passion. Il faut être passionné pour Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord de dire que, voilà, moi aujourd'hui, je vais être vraiment passionné par Jésus ? L'incertitude, elle est aussi, on a pu l'entendre ce matin, dans cette création d'église à Arras. Ça aussi, c'est un autre domaine qu'on a entendu et que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse des petits, Dieu veut qu'on se multiplie, Dieu veut qu'il y ait des églises qui se créent. Pas pour dire, ah, c'est joli, on a un beau bâtiment, on est 100, 200 ou 50 ou 20, et puis bah, voilà, on a créé une église, et puis elle marche, et puis elle est pérenne, elle dure dans le temps. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu veut élargir sa tente. Dieu veut élargir son peuple. Dieu veut que l'on puisse se développer et qu'on puisse encore et encore pouvoir propager son nom pour pouvoir, là aussi, avoir un peuple nombreux qui puisse venir et glorifier Dieu. Ce matin, cette louange, elle était forte. Merci Sandy. Parce que je me rends compte encore une fois que quand Sandy lead et que derrière je prêche, eh bien, il y a une union entre elle et moi. Et c'est... Ce matin, on a vraiment prié la majesté de Dieu. On a chanté la majesté de Dieu. La majesté de Dieu, elle est là de dire, « Ok, dans tes incertitudes, je suis ton Dieu majestueux. Je suis celui qui prend tout. » Ron l'a encore précisé tout à l'heure, on a chanté qu'on était nus dans la présence de Dieu. On est complètement nus parce que Dieu nous voit comme ça. Dieu connaît chacun de nos domaines dans notre cœur. Et Dieu est capable d'abonder, de surabonder dans chacune de nos épreuves. Hier, on partageait dans la voiture avec Pascaline et les enfants. Il y a un artiste qu'on aime bien dans la maison en ce moment, c'est Stromae. Alors, est-ce que tout le monde connaît Stromae? Oui, non, bon. Mais alors c'est vrai que c'est un chanteur à texte. Il fait des textes. C'est vrai qu'il a des chansons, il fait des textes. Il a une façon de composer sa musique qui est assez technique, un peu techno, et j'aime bien le. Pas le personnage, mais j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien sa musique. J'ai téléchargé sur mon iPhone ces deux dernières chansons qui font le tour un peu sur toutes les ondes en ce moment. C'est formidable. Et puis, il y en a une autre, vous avez Papa Outé. Papa Outé. Mais est formidable, quand on lit les paroles, quand on écoute bien les paroles, il y a une détresse dans le cœur de ce mec. Stromae, il est dans l'incertitude complète et il le fait ressentir dans ses paroles. Dans Papa Outé, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas eu de père. Dans Formidable, c'est quelqu'un qui vient de se faire plaquer par sa femme parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et il a une détresse, il a une incertitude dans sa vie. Et c'est vrai que ça a été aussi un peu déclencheur de ce thème de ce matin. Je vais vous les lire rapidement les paroles, enfin quelques-unes. Nous étions formidables, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé bébé, oups, mademoiselle, je ne veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier. Bon, là, il dit un gros mot, je vais le passer. Tut. Je ne peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas. Et reviens. 5 minutes. Quoique je t'ai pas insulté, je suis poli, je suis courtois. Et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous m'auriez vu hier. Oui, j'étais formidable. Je ne vais pas lire tout, mais les paroles de cette chanson, elles sont là où on voit une détresse. On voit une détresse. Il y a une incertitude. Parce qu'au plus tard, dans sa chanson, il parle à un enfant et il dit « Tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau, mec. T'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font à chaque fois. » Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé ?« Si tu veux, je lui dis... » Alors, c'est écrit petit, hein, je dois me pencher. Hop. « Si tu veux, je lui dis comme ça, c'est réglé. Et oh, petit aussi, enfin, si vous avez à temps 3 ans, 7 ans, et là, vous verrez. » Je ne retrouve pas les paroles, mais à un moment, il dit ouais, ok. Il dit à cet enfant, il dit les femmes vous larguent tout le temps. Donc, il fait vraiment une généralité dans le sens où les femmes quittent les hommes et les hommes quittent les femmes ou trompent leurs femmes parce que les femmes vieillissent. Il y a une détresse dans le cœur de cet homme. Il y a des incertitudes. Ces incertitudes, elles sont là, elles sont permanentes. Mais je pense que Dieu peut les prendre entre ses mains. Et c'est pour ça que moi, c'est vrai que je ne serai pas là le 6 octobre, mais je demande vraiment à Dieu à ce qu'il puisse y avoir une action du phare dans la rue. Et vous le savez, c'est mon cœur. Je pense que Dieu veut qu'on puisse sortir. Dieu veut qu'on aille faire des brocantes. Dieu veut qu'on fasse des barbecues. Dieu veut qu'on aille toucher les gens. Parce que ce que chante Stromae, c'est dans tellement de cœurs. Il y a tellement de personnes aujourd'hui dans la rue qui sont comme ça. Et c'est tellement bon de pouvoir leur dire, mais écoute, moi j'ai un Dieu et mon Dieu peut t'aider. Mon Dieu est quelqu'un qui peut prendre ton cœur en main, peut prendre ta vie en main, et il peut t'aider à régler ces problèmes-là. On vient d'avoir un témoignage sur la dépression, sur des tentatives de suicide. On a tellement de personnes comme ça qui sont dans cette incertitude. Et l'incertitude, on la voit quotidiennement aujourd'hui. Colossiens 2, versets 1 à 4. Je veux en effet que vous sachiez combien grand est le combat. Je pense que là-dessus, on va être tous d'accord de dire que malgré tout, il y a un combat qui est là. Là, c'est Paul qui parle. Et on a tous un combat. La vie, elle est un combat perpétuel où on se dit, Seigneur, soit il y aura deux empreintes de pas sur le sable, soit il y aura une empreinte de pas. Mais les combats, je veux les faire avec toi. Et quand ils sont trop durs, les combats, eh bien, on a un grand Dieu qui peut nous porter, nous supporter. En effet, que vous sachiez combien grand est le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On a le privilège aujourd'hui, quand on est chrétien, c'est de pouvoir dire, Seigneur, moi je te suis. Chaque jour que Dieu fait, chaque matin où je me lève, j'ai le privilège, j'ai la joie, j'ai la grâce de pouvoir dire, Seigneur, moi cette journée elle est pour toi. Cette journée, je veux vraiment être dans tes plans. Je veux vraiment pouvoir être là où tu veux que je sois. Au début de ma réflexion sur mon thème par rapport à mon prêche, j'étais plus à me dire, et c'est le témoignage que j'ai des fois de certains qui me disent, mais qui je suis moi pour que Dieu puisse être avec moi? Et j'ai eu l'occasion de trouver, et puis j'avais réfléchi à ça. Mais quand on regarde bien dans la Bible, quand on regarde les différents personnages de la Bible, il y en a pléthore. Il y a beaucoup de personnages dans la Bible. Si on prend le premier qui est dans la Bible, Adam et Ève, ou les premiers, Adam, c'est quand même un mec qui a eu des enfants qui se sont entretués. C'est quelqu'un qui, par lui, est rentré le péché. Est-ce que ça a empêché Dieu de se servir d'Adam? Non. Quand on voit Moïse, Moïse a été un meurtrier. Il avait tout un peuple qui était contre lui aussi. Pendant des moments de sa vie, il a été au creux, dans l'incertitude. Et pourtant, est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de Moïse? Non. Job, il a tout perdu. Qui peut dire qu'il a eu plus de persécutions dans sa vie que Job? Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, ses richesses. Est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de Job? Non. David a commis l'adultère. David, il a été meurtrier. Est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de David? Non. Pierre, il a trahi Jésus. Et qui plus est, Jésus l'avait prévenu. Il dit, avant que le coq ne chante, tu me trahiras trois fois. Est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de Pierre? Non. Jean-Baptiste, c'était un mec un peu bizarre. Il vivait dans le désert, il était habillé de peau de bête et il mangeait des sauterelles. C'est vrai, non? Est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de Jean-Baptiste? Non. Paul, avant d'être Paul, c'était un tueur de chrétiens. Et pourtant, est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de Paul? Non. Je peux en passer comme ça, il y a Marie, la sœur de Marthe, il y a Marthe, il y a les disciples. Quand Jésus disait, bah, écoutez, venez avec moi, il faut qu'on prie, et qu'ils s'endormaient. Toutes ces personnes. Et des expériences comme celle-là dans la Bible, il y en a pléthore. Est-ce que ça a empêché Dieu de se servir de ces personnes? Non. Donc les incertitudes qu'on peut avoir dans notre vie, est-ce que ces incertitudes vont empêcher Dieu de se servir de nous? Non. Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Les discours séduisants peuvent aussi être source de tribulation, être source d'incertitude dans nos vies. Je ne vais pas être trop long parce que le temps passe. Même si je viens de commencer, c'est vrai qu'on a vécu beaucoup de choses et je pense que le mieux, c'est de pouvoir vraiment être... ressasser ce qu'on a pu vivre ce matin. Parce que Dieu est un Dieu qui bouge. On a un Dieu qui est là et qui est vivant. On a le privilège d'avoir un Dieu qui est vivant. Cette image, elle est antichrétienne. Elle est antichrétienté, elle est antibiblique. Puisque le monde est incertain, eh bien moi je vais vivre dans la certitude. Non. Je vais gérer avec incertitude. Non. Tu ne peux pas gérer avec incertitude. Si vraiment tu as le privilège, ou si tu l'as ce privilège, mais si vraiment tu as ce souhait, ce désir dans ton cœur de pouvoir t'approcher de ton Dieu, Dieu va prendre ta vie en main. Et Dieu va accepter que tu puisses t'approcher de lui. Et c'est Rita qui le disait tout à l'heure. Lorsqu'on a tendance, nous, à nous éloigner de Dieu, à rentrer dans cette incertitude, eh bien Dieu, il se rapproche. Et alors, si nous, on se rapproche de Dieu et que lui se rapproche, eh bien ça va deux fois plus vite, parce qu'on se rapproche l'un l'autre. Et c'est là où Dieu peut agir. C'est là où Dieu va vraiment gérer nos incertitudes. C'est là où Dieu va vraiment faire en sorte que ton cœur puisse déborder de joie. Même si c'est dans l'incertitude, Dieu peut te donner une joie débordante. On a tous ces incertitudes. Qui n'a jamais vécu d'incertitude ici? Qui n'a jamais dit, voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait? Peut-être même qu'il y en a qui disent, mais demain, je ne sais même pas ce que je vais manger. Et pourtant, Dieu, dans sa parole, nous dit que même l'oiseau des champs n'a pas à se soucier de ce qu'il va faire le lendemain ou ce qu'il va manger le lendemain, parce que Dieu pourvoit. Alors, qui plus est, si Dieu pourvoit pour les animaux de la terre, à bien plus forte raison, il va pourvoir pour nos besoins à nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a toujours tendance à penser que les incertitudes peuvent être négatives. Moi, j'ai tendance à penser qu'elles peuvent être aussi positives. Ce matin, j'ai eu, je pense qu'elle va me pardonner, j'ai parlé avec Jacqueline. Et Jacqueline, je dis qu'elle va me pardonner dans le sens où je vais aborder ce qu'elle m'a partagé ce matin. Mais il y a deux semaines de ça, elle était en pleine incertitude. Et j'étais en train de lui parler, j'ai essayé de l'exhorter en disant, mais écoute, la situation, donc c'est par rapport à son travail, la situation dans laquelle tu es, même si elle est dure, même si comme ça au premier abord, à la première vue, on a tendance à se dire, mais où je vais? Comment je vais m'en dépêtrer? Comment cette situation, Dieu va pouvoir faire en sorte qu'elle devienne positive? Et je l'ai exhorté, j'ai dit, écoute, il faut absolument que tu pardonnes, déjà d'une part, parce qu'on lui a fait des crasses. Je lui ai dit, il faut que tu pardonnes, et il faut que tu te mettes devant Dieu. Que si ton pardon est vraiment sincère, eh bien là, tu vas dire à Dieu, écoute Seigneur, ta justice, elle est pour toi. C'est toi qui vas faire justice dans cette situation. Et ce matin, Jacqueline est venue me voir, elle m'a dit, Fred, ma situation, elle est, waouh, Dieu a dirigé. Il a fait en sorte que, eh bien, je puisse quitter mon travail de façon sympa, sans rentrer dans les détails. Et en plus, la direction descend pour moi d'Espagne pour que je puisse être un témoignage et que ce que je vais leur partager, ils ne refassent pas la même erreur plus tard. Dieu a réussi à changer cette incertitude dans une épreuve qui était difficile pour Jacqueline. À premier abord, comme ça, elle n'avait pas la force pour la traverser. Mais Dieu a fait en sorte que, hop, cette situation, cette incertitude, elle devienne positive pour Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vu une Jacqueline qui avait une banane comme ça jusqu'aux oreilles et qui était en train de me dire « Fred, Dieu a béni. Amen. » Qu'est-ce que tu penses, toi, chacun ici? Est-ce que vous pouvez vous faire une introspection Ouf, j'ai échappé belle sur ce coup-là. Une introspection et vous dire « Voilà, c'est quoi mes incertitudes aujourd'hui ?» Pensez à une incertitude que vous avez aujourd'hui. On en a tous au moins une. Et puis de vous dire, mais comment est-ce que Dieu pourrait m'aider à traverser ça? Et comment est-ce que Dieu pourrait faire pour que cette incertitude, eh bien, elle devienne positive dans ma vie? Est-ce que vous pensez que Dieu peut agir sur vos incertitudes? Ça peut être des incertitudes dans le couple, ça peut être des incertitudes dans votre vie de travail, dans votre vie de tous les jours, avec un voisin, ça peut être vos incertitudes dans l'église, vos incertitudes vers l'avenir. Pour beaucoup, c'est ça, c'est l'avenir. L'avenir est incertain. Et pourtant, on a un Dieu qui veut agir. On a un Dieu qui veut prendre vos incertitudes, qui veut prendre mes incertitudes et il veut prendre les vôtres. Et on a un Dieu qui veut agir dans ces incertitudes. Parce qu'on a un grand Dieu. L'infidélité peut générer des doutes. On l'a vu, hein, on peut le lire dans la Bible avec Moïse, quand on voit le peuple d'Israël qui était toujours à avoir... une rébellion envers Moïse en disant « Mais t'es sûr, oh là là !» Et pourtant, Dieu leur donnait leur nourriture. Chaque jour, ils étaient nourris, ils étaient dans le désert, ils tournaient en rond dans le désert, mais Dieu les nourrissait. Et l'infidélité du peuple a généré des doutes. Et les doutes ont fait qu'ils ont tourné dans le désert. Et pourtant, Dieu était là. Pourtant, Dieu souhaitait qu'ils sortent de ces incertitudes et qu'ils puissent rentrer dans une fidélité. Donc l'infidélité peut générer des doutes. Et les doutes vont générer l'incertitude. La peur peut générer des doutes. Et les doutes, l'incertitude. Matthieu 8, 26, c'est Jésus qui parle. Les disciples et Jésus sont dans une barque. Et puis les disciples, quand ils voient la tempête, ils se disent « Oh là là, on va chavirer, on va mourir, etc. etc. » Et Jésus se lève et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Même des disciples qui ont côtoyé Jésus-Christ, qui ont côtoyé Jésus jour après jour, même eux, à un moment donné, ont eu peur. Donc, quelque part, je ne vais pas m'excuser d'avoir des peurs. C'est humain d'avoir des peurs. Mais je me dis que si même les disciples qui étaient quotidiennement avec Jésus avaient peur, à bien plus forte raison, on peut en avoir. Mais comment gérer ces peurs maintenant? Comment les gérer? C'est très simple. On a le même privilège que les disciples. On a un Jésus qui est avec nous quotidiennement. Il est là chaque jour. Et j'en reviens à ce poème que Marie-Hélène disait tout à l'heure. Quand vous êtes dans la peur, dans les craintes, eh bien vous n'avez plus qu'une seule empreinte de pas dans le sable. Parce que Jésus va vous porter. Il va vous prendre sur son dos ou dans ses bras. Mais il va vous permettre de traverser cette épreuve. Amen. Moi, ça me passionne, ça m'excite de voir ça. C'est de voir qu'on reste humain. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des surhommes ou des surfemmes. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est sorti du monde. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que voilà, toutes les épreuves, on les partage les doigts dans le nez. Au contraire. Au contraire, Dieu va se permettre et va profiter de ces incertitudes, de ces épreuves que vous allez traverser pour pouvoir vous faire grandir. Jacqueline, elle a grandi. Elle a grandi. Elle a vu Dieu agir dans une situation qu'elle voyait désespérée. Qui est capable de dire aujourd'hui, j'ai pas grandi moi dans l'épreuve? Qui n'a jamais grandi dans une épreuve? La moindre épreuve, même aussi difficile qu'elle soit, il y a du positif dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Toujours la peur. Adam, quand il a croquer la pomme avec Ève, c'est un passage qui m'a toujours surpris, ça. C'est que on a un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, et il se baladait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et puis, une fois que le couple a croqué du fruit, eh bien, ils se sont cachés. Pourtant, Dieu savait pertinemment où ils étaient. Mais pire que ça, c'est que Dieu se permet de dire « Oh, où est-ce que tu es, Adam? Où est-ce que tu es, Adam ?» On a un Dieu qui est ironique, qui aime bien l'humour. Bon, pour tous, vous savez que je suis assez taquin aussi, mais on a un Dieu qui est pareil. J'essaie de me dédouaner sur le fait que je sois taquin, donc c'est bien. Et qu'est-ce que répond Adam? Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit « Mais où es-tu ?» Ça me fait toujours sourire. « Où es-tu ?» Comme s'il ne le savait pas. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que je suis nu et je me suis caché. La peur d'Adam a fait qu'il était dans l'incertitude de se dire comment Dieu va agir, comment Dieu va réagir par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce qu'on a fait avec ma femme. Et de par cette crainte, par cette peur, eh bien, le doute était là. Le doute était dans le cœur d'Adam. Et les incertitudes étaient dans le cœur d'Adam. Et après, on connaît tout le déroulé de ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais vos peurs, vos doutes, vont créer l'incertitude dans vos vies. Notion de foi, une notion de foi maintenant. Je pense que c'est là qu'on va contrebalancer nos incertitudes. La dernière fois, je vous ai donné la définition de mon ancien pasteur qui est australien, donc il avait un petit accent australien. En plus, il était belge. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. J'aime beaucoup cette définition et au début, quand il nous a balancé ça en nous disant « Fred, la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. » Là, vous dites, soit il est bourré. Et on l'a fait répéter plusieurs fois. Et avant de pouvoir la prononcer, cette formule, eh bien, on s'est entraîné avec Pascaline. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Parce que dans les incertitudes, c'est là que Dieu va mettre une petite graine en vous et qui va dire, ok, tu vois l'incertitude là, tu vois, tu as ta peur, tu as ta crainte, tu as tes doutes. Moi, ce que je te demande maintenant, c'est de mettre ta foi en action. Et la foi, c'est là où vous allez contrebalancer le fait d'être dans l'incertitude. On pourrait prendre Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version officielle de la Bible. Moi, quand je dis la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit, c'est moins officiel. Mais c'est à peu près pareil. Quand on est dans l'incertitude, on a une foi, on a la foi en Dieu. On a cette foi qui va nous permettre aussi de pouvoir nous en sortir. Mais l'épreuve est aussi bénéfique parce qu'elle va nous permettre de faire grandir notre foi. Et c'est là que c'est le côté passionnant de vivre avec Dieu. C'est que le moindre détail dans nos vies, dans chacune de nos vies, Dieu va s'en servir. Dieu est un Dieu qui souhaite nous voir grandir. Dieu est un Dieu qui souhaite nous voir agir dans tous les domaines que j'ai pu citer en tout début de mon prêche. Dieu veut que dans les incertitudes, on puisse le louer. Qu'on puisse avoir ce cœur de louange, ce cœur d'adorateur. C'est toujours facile quand on est plein de joie, quand tout va bien dans notre vie, de chanter des chants à Dieu. Mais quand vous allez moins bien, essayez de chanter un chant à Dieu. C'est plus difficile. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ça. Dieu veut que, à chaque fois que vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit dans votre vie, vous puissiez revenir à lui. Vous puissiez revenir à lui. Vous repartez et vous puissiez revenir à lui. Comme un élastique, vous savez. Il y a toujours cette scène dans Gaston Lagaffe. Quand j'étais jeune, je lisais les Gaston Lagaffe. J'aimais Gaston Lagaffe. Et Gaston Lagaffe avait un vieux taco. Je sais pas pour tous. Est-ce que vous connaissez le vieux taco que Gaston Lagaffe avait? Et puis un jour, à un moment, dans un des Gaston Lagaffe, on voit une Porsche qui roule à fond, les balais sur une autoroute. Et puis il va vite. Et puis il y a Gaston Lagaffe avec son taco qui double la Porsche. Alors, le mec dans la Porsche, il est surpris. Alors, il accélère, il roule encore plus vite avec sa Porsche. Et il redouble Gaston Lagaffe. Et puis à un moment, il y a Gaston Lagaffe qui double la Porsche. Et ça, pendant deux ou trois fois, trois ou quatre fois dans la... Et puis après, on se rend compte que Gaston Lagaffe avait attaché ses bretelles à la Porsche. Ça veut dire que les bretelles, une fois qu'elles étaient tendues, ben Gaston Lagaffe était propulsé grâce à ses bretelles. Et ben avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il marche, il court, il est là avec nous. Et nous, on a nos bretelles qui sont attachées à Dieu. Et dans l'incertitude, on est derrière Dieu. Jusqu'au moment où Dieu dit, ok, on y va, on accélère. Les bretelles se tendent et on dépasse, on y va. On accélère. C'est ça ce que Dieu veut dans votre vie. C'est que vous puissiez être au fond du trou et que grâce à lui, qu'il puisse vous propulser et que vous puissiez arriver, hop, avoir un bon coup de pression et de pouvoir revenir dans une grâce, dans sa grâce. Parce que Dieu a dit dans sa parole, ma grâce te suffit. Un jour, je prêcherai sur la grâce. J'ai eu l'occasion de découvrir ce que c'était la grâce quand on a fait ses cours à Mulhouse. Et ce verset, je l'ai toujours, m'a toujours surpris. Dire, pourquoi, Seigneur, ça veut dire quoi, Seigneur, ma grâce te suffit? Et quand vous étudiez ce que c'est la grâce de Dieu, waouh, vous dites, oh là, ta grâce me suffit. Purée, c'est, voilà. La foi. Ça, j'ai piqué ça sur Facebook. C'est Régine qui a mis ça hier ou ce matin. La foi est le premier pas, même si vous ne pouvez pas voir tout l'escalier. Ça, c'est de Martin Luther King. Et c'est vrai, la foi, c'est ça. La foi, c'est de monter sur la première marche. Et la foi, c'est de se dire, même si je monte sur la première marche et je ne vois pas la deuxième et je ne sais pas ce que Dieu va me demander pour monter sur la deuxième, mais j'y vais, je monte l'escalier. On y va, on court, on y va, on continue. 1 Corinthiens 1:18, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Revenez à la croix, revenez à la croix. Vous êtes dans la certitude, revenez à la croix. Revenez voir Jésus, revenez à votre Dieu. Parce qu'il a cette puissance qui est là. Il a cette grâce, il a cette grâce. Il veut vous la donner, il veut vous la communiquer pour que vous puissiez grandir, que vous sortiez de vos incertitudes. Parce que vous allez avoir cette certitude que vous avez un Dieu qui gère tout. Là, j'aurais dû avoir des amens. Merci. Je vais m'arrêter. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai déjà pris un peu de temps. Est-ce que vous n'êtes pas excité? Est-ce que ça ne vous excite pas de voir tout ce qu'on peut vivre dans une église, dans une vie de tous les jours, dans une famille? Est-ce que ça ne vous excite pas ou ce n'est pas passionnant de voir comment Dieu peut agir? Antoine le disait tout à l'heure, Jésus, quand il a guéri un aveugle, il a craché par terre et il a fait de la boue avec sa salive et il lui a mis ça sur les yeux. Je n'ose pas imaginer la scène parce que vous êtes là et c'est vrai que vous n'y voyez toujours pas parce que vous avez la boue sur les yeux. Mais on pourrait très bien se dire, mais Jésus, il aurait pu dire, voilà, sois guéri. Mais non, l'aveugle, il a fallu qu'il ait un pas de foi. Les 10 lépreux qui ont crié, Jésus, guéris-nous, Jésus. Et Jésus a dit, ok, moi je vous guéris, mais allez voir le sacrificateur maintenant. Oh, attends, t'es fou, Jésus. Ils auraient pu parler comme les jeunes. Oh, vas-y, t'es fou, toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on était impur, qu'on était lépreux, on n'avait pas le droit de s'approcher du temple. Et les 10 lépreux qui s'approchent d'un temple pouvaient être condamnés à mort. Et Jésus les a mis au pied du mur en disant, ok, je vais te guérir, mais je veux voir ton pas de foi. Va voir le sacrificateur. Et ceux qui y sont allés ont été guéris. Est-ce que vous êtes prêts à faire un pas de foi? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Parce que là, il y avait un prix à payer, c'était quand même une vie qui était en jeu. Ou 10 vies, parce qu'il y avait 10 lépreux. Mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Je vois des hochements de tête. Il faut payer le prix. Il faut qu'on puisse payer le prix. Il faut que je puisse payer le prix. Il y a des prix que moi, encore, je ne suis pas prêt à payer. Il faut que je les paye. Parce que Dieu veut me voir grandir. Et moi, ça me passionne. Ça me passionne parce que je sais. Je sais que Dieu est là. Je sais qu'on a un grand Dieu. Je sais qu'on a un Dieu qui veut voir une église avec un grand E. Quand on voit la collaboration qu'on a avec Amsterdam, c'est l'église avec un grand E. L'église, comme certains me disent, l'église universelle. C'est l'église dans le sens où on est corps de Christ, où on agit ensemble, avec une même vision. Une même vision. Antoine a parlé de sa vision. Vous voyez pourquoi je reviens à tout ce qu'on a vécu ce matin? Parce que tout ce qu'on a vécu ce matin, c'est mon prêche. Les incertitudes, on en a, et pourtant Dieu agit. On a une vision, on a une collaboration, on a des moments d'évangélisation, on a des moments de louange. Et tout ça, même si on peut avoir des incertitudes, Dieu veut nous voir grandir dans chacun de ces domaines. Et on va continuer, on va y aller. Je vais finir avec ça, parce que notre Dieu est un grand Dieu. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai. Et je veux ça, que ce soit gravé dans chacun de vos cœurs. Si vous avez un grand Dieu, vous verrez des grandes choses. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. T'es dans l'incertitude, va vers Jésus, il va te donner du repos. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas seul dehors celui qui vient à moi. Toujours pareil. Allez à lui, il ne vous mettra pas dehors. On a un Dieu, on peut lui réclamer tous les jours. On peut trépigner comme un enfant en disant « Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et Jésus dit bah, « Je ne vais pas te mettre dehors, vas-y, viens, continue, viens. » Et le dernier verset, où là je vais lâcher une bombe, 1 Jean 4, 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je vais m'arrêter là. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ces moments, Seigneur, que tu nous donnes. Ce week-end, Seigneur Jésus, merveilleux qu'on a vécu. Ce week-end, Seigneur Jésus, avec un couple qui s'est uni, Seigneur Jésus. Ces moments de louange qu'on a pu t'apporter ce matin, Seigneur. Ces moments de partage, Seigneur Jésus. Cette collaboration avec Amsterdam. Cette vision qui est encore donnée, Seigneur Jésus. Ces moments où on fait des projets pour toi, où l'Église veut sortir dehors pour pouvoir aller chercher les âmes, Seigneur Jésus. Ces âmes qui sont dans l'incertitude et ces âmes qui veulent et qui peuvent et qui vont, Seigneur Jésus, te donner leur cœur. Seigneur Jésus, on veut vraiment aller de l'avant avec toi. On veut aller de l'avant avec toi et pour toi, Seigneur Jésus, pour que ton royaume puisse grandir. Seigneur, vraiment, vraiment, je te rends grâce parce que tu es un grand Dieu. Seigneur, tu es un grand Dieu. Seigneur, tu es un grand Dieu. Et si, Seigneur Jésus, tu es avec moi, qui sera contre moi? Parce que tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ça, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen.